Les courses RMC.
PMU.fr, Paris Sportif, Paris Hippique, Poker. PMU.
Les courses RMC, Julien Pichenet.
Comme tous les samedis, 13h, 14h, les courses RMC, cinquième numéro de la saison 2019. Avec moi, aujourd'hui, autour de la table, Brahim Asloum, il est là. Bonjour Brahim.
Salut Julien, salut messieurs.
Et j'ai envie de vous chanter une petite chanson, hein. Oh, allez, non, je vais le faire, on le fait tous ensemble. Ouais, allez. Happy birthday to you. C'était avant-hier, ça s'est bien passé Brahim, 40 ans,
ça y est, on est rentré dans le bel âge.
40 ans, jours.
Je sais pas si je suis toujours en forme, j'ai plus 20 ans, mais bon. Mais il y a un peu de reste.
Deux fois 20 ans et toujours en forme.
Quel poids?
61 ce matin.
Bravo.
Ouais. Lionel Charbonnier, encore sous le choc du nul d'Auxerre contre le Red Star. Non, c'était pas votre anniversaire.
C'était il y a très longtemps.
Bonjour à tous. Encore un nul pour Auxerre, hein. Mais vous avez le sourire.
Oui, bah ouais, encore.
Vous avez le sourire, Auxerre, quand même. Hein.
Ouais. Bah, j'ai le sourire, mais je suis un petit peu chafouin quand même.
Hein. Ah, parce que tu disais l'autre jour, la Ligue 1 est prochaine pour Auxerre. On en est loin. Romain Poré, le Parisien. Bonjour Romain.
Salut messieurs.
Salut Romain.
Salut les gars.
Mathieu Saccanini pour sa deuxième, c'est ça, hein,
c'est la deuxième.
Et la deuxième, un mois après la première.
Encore une fois.
Et Laurent Guédard également est là, il nous fera vivre les courses du jour à Vincennes. Bonjour Laurent, on annonce de la pluie pour cet après-midi à Vincennes. Il pleut déjà peut-être, non?
Ouais, salut Julien, c'est très humide aujourd'hui à Vincennes. C'est normal, c'est un petit peu l'hiver, donc des conditions climatiques assez particulières. Mais c'est un joli programme de 9 courses qui nous attend aujourd'hui.
On va commencer par vos coups de cœur, vos coups de gueule, vos craintes, vos déceptions, vos envies. On va reprendre l'actu de la semaine, on va secouer très fort. Ça donne le paddock des courses RMC, c'est parti.
Le paddock des courses RMC.
Alors évidemment, messieurs, on va revenir sur le prix d'Amérique. On y était tous dimanche dernier à Vincennes sous la pluie pour assister.
On était bien
pour assister à la victoire de Jean-Michel Bazir avec Bélina Josselin. On va y revenir dans un instant. 36 000 spectateurs, c'est le chiffre qui a été donné la semaine dernière.
Un petit peu moins. Il a plu et c'est vrai qu'il faisait un petit peu froid.
Ouais.
Mmh. J'ai eu plus de monde d'habitude. Hein.
Ouais. On avait l'impression quand même qu'il y avait beaucoup de monde.
Ouais, bien
en tout
sûr,
cas, mais 36 000, ça reste énorme.
Ça fait quand même, ça reste énorme. Ouais. Peut-être l'année dernière déjà, il y en avait plus. Et j'avais une autre sensation l'année dernière. Mmh. Mais ouais, je pense peut-être la pluie parce que le plateau était très beau.
Ça joue beaucoup, je pense. Pour la venue des parieurs en général.
Oui. Dans le temps, était quand même très très difficile. Mais on a l'habitude. Le prix d'Amérique, c'est toujours un peu plus ou moins le même temps.
Quand ils mettront en juillet.
Ah, ce serait pas mal ça. Pas mal. Guillaume Luc, c'est là, hein? Guillaume.
Bonjour.
Ah, Guillaume.
Avec une liaison.
Avec une liaison parfaite ou pas? Guillaume.
Vous m'entendez, les amis?
Très bien, Guillaume. Bonjour.
Un bon anniversaire, Brahim.
Merci, Guillaume.
40 ans, c'est le plus bel âge. Bah oui, effectivement, j'ai 40 ans, moi aussi. Je vais pas vous contredire. On va commencer, justement, avec toi, Brahim. Tu veux revenir sur l'exploit de Jean-Michel Bazir. Il a remporté donc le prix d'Amérique pour la quatrième fois, dimanche dernier.
Complètement. Et on parle beaucoup des immenses qualités en tant que de driver de Jean-Michel Bazir, qui vient de remporter son 20e sulky d'or d'affilée. Ce qui est assez incroyable. Mais moi, je voulais revenir aussi sur la réussite en tant qu'entraîneur. Il faut savoir qu'il a engagé trois partants. Il y a eu le premier, le deuxième et le quatrième. Et je crois, je me suis un peu renseigné, je crois que ça s'est jamais fait. Donc c'est une première. Félicitations à lui. Pour moi, à mes yeux, il fait partie sans doute, si ce n'est le plus grand sportif français. C'est assez incroyable ce qu'il fait. Il revient d'un AVC il y a à peine moins de 2 ans. Il vient de gagner la plus belle course du monde. Il vient de gagner, je crois, plus de 3059 courses en tant que driver.
Non,
c'est un phénomène.
C'est extraordinaire.
On dit de lui que c'est le Zidane des courses. Je crois qu'il est même passé au-dessus. Ouais. Il est dans une autre dimension, hein. Sincèrement, c'est
tout le monde, je crois,
phénoménal.
Personne ne va contredire Brahim là-dessus. Tout le monde est d'accord, Romain?
Non, c'est moi qui suis un vrai passionné de course, ça me fait vraiment plaisir d'entendre ces mots-là de la bouche de Brahim qui sait ce que c'est le sport et qui reste un grand sportif à 40 ans, il faut bien le dire. Et non mais c'est vrai que dans les courses on met le cheval en avant notamment et puis il faut pas oublier les hommes parce que Jean-Michel en plus d'être un driver et le meilleur français est aussi un fin metteur au point, il connaît parfaitement ses chevaux, il entretient d'ailleurs une relation assez particulière avec les chevaux qu'il entraîne, toujours des petites attentions, des petits mots qui c'est comme ses amis quoi, ses potes, ses copains. Donc il a ce truc là, le c'est le feeling je pense qui passe bien avec ses chevaux quoi.
Il a une dimension au-dessus, il a un sens en plus que les autres, comme les grands champions qu'on peut rencontrer tout autour de nous, les médailles olympiques, les champions du monde, les tout ce que tu veux. Ces gens-là ont quelque chose en plus. Lui, il a quelque chose en plus. Et en plus, ce qu'il faut dire, c'est que c'est vraiment un métier très 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 compliqué. Et lui, il le fait depuis longtemps et il est toujours là. Il a pas
tous les jours.
Et on dirait qu'il s'améliore.
D'or d'affilée.
On dirait qu'il s'améliore. C'est un truc de fou.
Surtout dans cette épreuve, j'ai envie de dire qu'il a mis sa qualité de fin tacticien au point, parce que quand même arriver à faire rentrer ses trois pensionnaires dans les quatre premiers, c'est quand même phénoménal. Et en plus, c'est lui qui gagne à la fin. C'est encore plus beau, je trouve.
Et il a fait gagner une jument, ce qui n'était pas arrivé depuis 1999.
Ça, c'est compris. 20 ans tout pile, et c'était déjà lui, Moneymaker.
C'était lui avec Moneymaker en 99. Et donc, retour d'une jument au palmarès du prix d'Amérique. Au palmarès, on ne verra pas cette année. On n'a pas vu cette année Bold Eagle qui a un petit peu raté sa course. Tu veux revenir, Lionel, sur la déception?
Oui,
Bold Eagle, est-ce que c'est le mot qui convient, déception, déjà, pour toi?
Oui, je suis déçu. Alors, je suis pas déçu par Bold, proprement dit, parce que je suis déçu de ne pas l'avoir vu courir. C'est tout.
On l'a pas vu du tout.
C'est le souci. Il a pas pris de départ, donc on le sait, la veille sur notre antenne, les gens le disaient. Qui est-ce qui c'est Björn Goop qui disait de toute façon tout se joue au départ, tout va se jouer au départ. Et ben là, il y a pas eu de départ, il y a pas eu de course. Il s'est retrouvé tout seul comme ça à pouvoir. En plus, il a eu le mauvais wagon. Il avait des chevaux qui étaient incapables de pouvoir le ramener tellement ça allait vite devant. C'était très compliqué. Il aurait fallu qu'il fasse le truc tout seul. Il a bien tenté. Il est venu finir. Voilà, il a fait un petit bout comme ça. Bon, je suis déçu de pas l'avoir vu parce que et je suis déçu aussi. Et je suis pas le seul, je pense, pour tous les supporters, parce que tu l'as vu, Julien. Hein, on l'a tous vu.
Il y avait énormément de
supporters de Bold. Voilà, c'est un petit peu. Tu vois, je comparerais un petit peu cette finale là, parce que c'est une finale de Coupe du Monde, j'irais. Un petit peu à la déception que j'ai eue quand le PSG s'est fait prendre une remontada incroyable. Et tu voilà.
Et d'autant les amis.
Oui.
Ouais, Lionel, aurait pu avoir le dos de Louis King superbe devant les tribunes, et finalement Franck Nivard s'est révisé. C'est dommage pour lui parce qu'il aurait pu certainement intégrer le groupe de tête dans ces conditions.
Voilà. Donc comme je veux fustiger personne, je vais globaliser mon propos.
Lionel, ce qui est intéressant, c'est que tu auras peut-être ta belle finale dans 10 jours puisque nous aurons le Prix de France. Et je pense que cette fois-ci, qu'un départ relancé, Bold Eagle pourra jouer sa partition à fond. Et moi, je crois qu'il peut gagner cette course. On se projette un peu, mais je crois que ça peut être une belle revanche dans une semaine.
Ouais, c'est ce que m'a dit Pierre tout de suite quand je l'ai eu, Pierre Pilarski. Il m'a dit, bon, tant pis, il n'y a pas eu de course. On fera la revanche la semaine prochaine. Mais.
Tu l'as vu juste après la course?
Pierre
Pilarski, le copropriétaire de
Bold Eagle. On s'est écrit, pardon.
D'accord.
Et il m'a dit, il y aura la revanche, mais. Non, prix d'Amérique. Enfin,
c'est le prix d'Amérique.
Pour moi, le prix de France, c'est pas une. Enfin, c'est une revanche, bien évidemment, mais c'est pas le prix d'Amérique.
Lionel, je mets un petit bémol à ce que tu dis. Moi, je pense qu'il a quand même des excuses à faire valoir, notamment l'état de la piste.
Parce que
la piste, elle était tellement collante qu'il fallait vraiment être à 200%, je pense, pour pouvoir revenir sur la troupe qui
faisait l'avant de la course. C'était compliqué.
Je pense que c'était trop difficile. Et pour ça, je trouve que l'état de la piste quand même était très 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 collante. Donc
il était déféré. T'as raison, parce que c'est vrai, c'est plus dur de revenir.
Elle l'est pour tous les participants aussi. Même s'il y en a qui s'adaptent un peu mieux.
Mais c'est vrai que
le fait d'être mal parti. Sincèrement,
c'est que dès le départ, on sait que la course est quasiment finie pour lui. Tous les favoris étaient devant et que lui se retrouve à 20 ou 30 mètres derrière.
En plus, il était un peu gêné au départ parce que les concurrents qui étaient devant lui, ils ont pas fait l'effort de tout de suite essayer de se placer. Donc moi, je pense qu'il y a des excuses et il va se rattraper, je pense, d'ici.
Rien n'empêche que Bellina, ça a été waouh. J'ai des frissons, c'était beau et ça n'enlève rien parce qu'on disait, en plus, s'il y en avait une vraiment pour le battre, c'était Bellina. On était tous
drivés par Bellina.
Juste rebondir une dernière fois là-dessus. Le vrai vainqueur, je pense, en valeur intrinsèque, ça reste quand même Readly Express, parce que c'est lui qui a ramené tout le peloton. Il a fait tout l'effort à l'extérieur, et je pense vraiment qu'avec des conditions de course un petit peu meilleures, je pense qu'il serait imposé de toute une classe.
Readly Express avec Björn Goop qui a terminé troisième. Mais pour en terminer avec Bold Eagle, déception des fans. Tu le disais, Lionel, déception aussi sans doute des parieurs que Bold Eagle ne termine pas.
C'est parieurs.
ils sont parieurs et fans en général.
Tout le monde n'a peut-être pas parié, mais que Bold Eagle ne termine pas dans les 5, est-ce que vous l'auriez cru si on vous avait dit ça il y a une semaine?
Non, moi, tous les jeux que j'ai faits, je l'ai mis partout. Et c'est lui qui m'a posé.
Sur Bold et Bélina.
Sincèrement, autant je suis fan, vraiment fan de Bold, mais je suis déçu. Je suis déçu parce que j'ai pas vu de course, je l'ai pas vu se battre, qu'on lui a pas donné la possibilité, mal parti. Mais quand vous avez une star dans une équipe de football, vous voulez qu'il brille. Là, il a pas du tout brillé, quoi. Il y a eu non match, quoi, malheureusement.
Je sais pas, j'ai l'impression de dire qu'il n'y avait pas mis Bold dans les 5.
Ah oui, tout le monde l'a mis.
C'est aussi. Hein, c'est pour ça, on sait si quelqu'un a gagné les 2 millions, pas.
Il y a eu une cagnotte partagée automatiquement.
Il y a eu beaucoup de gagnants, quand même.
Il y a eu beaucoup de gagnants.
Oui, bien sûr.
Bravo.
Et tu vois, quand j'entends Brahim parler de footballeurs qui loupent leur match, machin, eh ben j'ai l'impression que là, le match qu'on a vécu là, ben c'est la deuxième fois pour le PSG, mais t'attends Neymar dans les grandes occasions, il est pas là. Et là, j'attendais Bold, il est pas là. Et c'est dommage.
C'est bien de comparer le foot au foot.
Mais de toute façon, c'est du sport. Mais c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier. Et moi, j'ai pris goût aux courses parce que j'ai vraiment fait un parallèle avec mon sport et le sport en général. Et c'est pour ça que quand je dis que Jean-Michel est sans doute l'un des plus grands sportifs français, je le dis pas pour faire plaisir, je le pense vraiment.
Bien sûr.
Vous imaginez l'effort physique, le travail mental, au quotidien, mais c'est tous les jours.
Quand on est
dans des sports
par jour,
ça soit un match de foot ou même un match de boxe, je vais m'entraîner pendant 4 mois pour préparer un championnat du monde. Là, c'est tous les jours durant toute l'année, et les mecs arrivent à être en forme. Tu fais abstraction de la maladie, tu fais abstraction de plein de choses, et il y a encore de la performance. Faut être physiquement hors norme.
Ouais, pour bien s'en rendre compte, et je sais que Brahim l'a fait plusieurs fois, notamment avec Ridikash, si je me souviens, t'as été le voir le matin à l'entraînement, et quand on voit ces gars-là bosser le matin, c'est là où on se rend compte un peu de la condition physique nécessaire déjà pour faire ce qu'ils font tous les jours, et du talent de ces hommes-là, parce que c'est vraiment, et de ces femmes-là, parce qu'il y a aussi quelques femmes qui se débrouillent très bien, mais c'est une vie très très particulière, hein. Entraîneur, driver de chevaux de course, comme le dit Brahim, c'est tous
très,
les jours,
très difficile.
À n'importe quel moment de l'année, peu importe la météo, c'est... On a l'habitude de les voir sur la piste faire c'est des espèces de machines, parce que on les voit nous tous les jours
faire des tours de piste.
C'est ça. On voit la scène, mais ce qui se passe derrière, c'est aussi énormément.
Et là, ce qu'on voit, c'est comme dit Romain, c'est vraiment la partie apparente de l'iceberg. Mais t'en as 90%. Quand ils vont faire les courses, que les parieurs jouent dessus et tout ça, ils sont déjà debout depuis 5h du matin. Ils ont sorti parfois très souvent des lots avant. Ils montent dans le camion, machin, bam bam bam, ça y va, et derrière ils sont, et on leur redemande encore, t'as pas de sieste, t'as pas ci, t'as pas ça, on n'est pas dans la même catégorie là. Ils sont sur le sulky, ils vont faire les hits, ils vont faire les trucs, et il faut qu'ils soient encore performants.
Il pleut, il neige, on doit y aller, on doit foncer.
Ils le font.
Les courses, c'est l'un des très très rares spectacles où l'acteur qui impose son spectacle dépense de l'énergie notamment, mais aussi de l'argent pour aller faire le spectacle, avec un mince espoir de gain parfois, peut lui coûter de se donner en spectacle.
Voilà, ton paddock a viré finalement Lionel, tu vois, à l'hommage collégial pour les gens du milieu.
Jean-Michel Bazir, moi ce que je trouve qui caractérise le plus, c'est looking superbe quand même, parce qu'il l'a récupéré très récemment dans ses box, et il arrive quand même à le qualifier
on va en parler. Bah non, mais c'est le paddock de Romain, justement, on faisait le parallèle foot, foot et course. Le Zidane des courses, on en a parlé, c'est Bazir. Il y a le Mbappé du trot, c'est une expression qui vient de prendre.
Un Mbappé du trot, peut-être avec, alors pas l'outil super, mais peut-être super. Avec son driver Alexandre Abrivard.
De qui vient de cette expression?
Nous, peut-être. On a repris ça, en tout cas, cette
Mbappé
semaine dans le
trot.
Parisien, ouais.
Ah,
le
d'accord.
Mbappé du trot pour Alexandre Abrivard. Alors pourquoi? Parce qu'il faut replacer les choses dans leur contexte, quand même. Et, il y a eu une photo très, très amusante. Vous l'avez d'ailleurs peut-être vue sur les réseaux, qui est sortie, c'était dimanche après le Prix d'Amérique, où on voyait Jean-Michel Bazir en 2004 plutôt, lorsqu'il avait gagné avec Keza Kofedo le Prix d'Amérique, et un gamin lui courir après, juste après l'arrivée. Vous savez que quand le cheval revient vers les balances et vers le cercle des vainqueurs, il est toujours très entouré dans le Prix d'Amérique. Et ce jour-là, donc j'ai la date là, c'était le 25 janvier 2004, Alexandre Abrivard, qui avait 10 ans, courait après Jean-Michel Bazir, qui était son idole à l'époque, courait derrière le sulky pour être au contact du grand vainqueur.
Toujours après, hein.
Et donc dimanche dernier, il lui a encore couru après, il lui a donné des sueurs froides quand même, mais cette fois il était au sulky avec l'un de ses chevaux, donc c'est un peu la boucle bouclée. Et donc ça nous a fait penser à cette fameuse photo qu'on a tous vu d'Mbappé qui est avec Cristiano Ronaldo quand il était tout gamin ou ado, quoi. Et c'était assez amusant de voir ça, c'était l'élève et qui n'était pas encore chez le maître, qui est passé entre ses mains, qui lui a forgé un peu son talent, qui l'a façonné, voilà. Et là, on les voit à la lutte pour le prix d'Amérique. Je trouve que c'est une belle image.
Laurent Guédard voulait réagir, non? Laurent?
Oui, je voulais réagir. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec notre ami concernant Mbappé. Mais c'est vrai qu'il lui manque peut-être une petite corde à son arc, l'entraînement. Et Mathieu Abrivard, son cousin, est capable de tout faire, jockey, driver et entraîneur avec une certaine réussite. C'est vrai que ces deux-là n'ont pas le même âge. Mais moi, j'aime quand même les gens très complets. C'est vrai qu'Alexandre est très complet, qu'il est encore jeune, qu'il prendra certainement son permis d'entraîner. Enfin, qu'il entraînera certainement dans quelques années. Pour l'instant, c'est un super jockey, super driver. C'est vrai que c'est le Mbappé. C'est le plus jeune, c'est le plus en réussite, mais il lui manque quelques cordes à son arc encore, mais ça va venir avec le temps.
Il a 25 ans.
Je croyais que t'allais dire qu'il lui manquait plusieurs choses, mais surtout des zéros dans son compte en banque.
Peut-être en droite là, il est bien fourni de ce côté-là aussi.
On aura l'occasion d'en parler avec Pierre-Édouard Marie dans un instant, qui sera notre première invité pour en terminer avec Abrivard. Il a quand même dit qu'il était sûr, Alexandre, qu'il était sûr de gagner à la fin.
Dans le dernier tournant. Ses impressions. Alors ses impressions d'après course étaient assez amusantes d'ailleurs à entendre, parce que sur le poteau, c'était déjà un rêve pour lui de driver pour Jean-Michel Bazir, qui était un ami de sa famille et l'un de ses patrons. C'était un rêve pour lui de driver le prix d'Amérique avec l'un de ses chevaux. Donc rêve accompli. Et dans le dernier tournant, il a cru vraiment à la victoire avant que Jean-Michel justement revienne le battre au poteau. Voilà.
Et pourtant, looking superbe, qui était quand même le petit poussé de la course, a quand même fait un truc extraordinaire, parce qu'il est à 3 nez au vent depuis le passage dans les tribunes. Il se rabat en pleine. Un cheval que l'on connaissait pratiquement pas, avec les efforts qu'il a consentis, il est quand même deuxième échouant d'un tout petit quelque chose au passage du poteau. Je crois que c'est quand même l'une des plus grandes performances que l'on ait vues dans un prix d'Amérique.
Le prix d'Amérique. Oui, Guillaume. On reverra Looking Superb dans le Grand Prix de Paris dans plusieurs semaines.
Et voilà.
Bah, il fait pas le Prix de France, hein?
Non.
On va se projeter un petit peu sur l'avenir. Voilà, le prix d'Amérique, on en a quand même beaucoup parlé hein, dans les courses RMC. On y reviendra quand vous voulez, messieurs. Mais là, on va évoquer avec Mathieu Zaccanini le prix de l'Île-de-France. C'est ce week-end, c'est demain, c'est un groupe 1. Il y a 9 partants.
Tout à fait, c'est un groupe 1 qui est disputé sur la distance de 2175 mètres. Et je vais revenir tout simplement sur le fait que les deux champions qui ont fait 1 et 2 au prix du Cornulier seront absents. Donc déjà, Traders, qui a participé à l'Amérique, ne participe pas à cette épreuve. Et également, il y a Bilibili, qui devait initialement prendre à cette course, est déclaré non partant. Tout simplement, son entraîneur ne le trouve pas assez souple. Et donc, voilà, je vais rebondir un petit peu avec Romain Poré, qui connaît un petit peu l'entourage de l'autre champion, qui est Dexter Fromentro, et qui, je pense...
Ça, c'est ton grand favori.
Je pense il est déclassé, je veux mouiller un petit peu, je pense vraiment il est au-dessus.
Je suis déçu, je croyais que t'allais dire les trois grands champions, il en reste qu'un.
Il a fait quelque chose d'extraordinaire. Bien sûr, il a fait quelque chose de fabuleux. Il finit troisième du prix du Cornulier avec, je pense, des ressources. Romain va essayer de peut-être me confirmer qu'au milieu...
C'est vrai que le cheval a fait une grande course, hein. Il est encore assez jeune, il est plus jeune que Bilibili et Traders, donc l'avenir pour lui est assez assez rose. Mais on fait pas des grandes courses sans laisser un peu de plume, Brahim.
Sans des grands drivers.
Voilà, non, c'est même pas ça. Non, mais quand on fait des gros matchs ou de boxe, de foot, de tout ce que vous voulez, on laisse toujours des plumes. Si vous voulez, prix Cornulier, c'était il y a 15 jours, et en 15 jours, pour se refaire une santé, on perd un peu de poids, le moral peut-être qu'il est un peu fléchissant. Faut que le cheval est bien récupéré. Apparemment, c'est le cas, mais on n'est jamais sûr de rien. Avec les chevaux, ils parlent pas, donc tout l'entourage a fait en sorte que le cheval arrive au top. Mais on a toujours ce petit doute quand même des courses assez rapprochées. C'est un cheval en plus qui, après, quand il court comme ça, il dort beaucoup. Il est souvent très fatigué de ses courses, et du coup, on lui donne un laps de temps qui est assez large, plus 3 semaines, 1 mois entre ses courses que 15 jours. Donc là, il a 15 jours. C'est le programme qui veut ça. Faut s'adapter.
Non, mais il faut préciser l'arrivée qu'a faite Mathieu Zaccanini tout à l'heure dans les locaux de RMC. Il a dit non, Julien,
c'est le chocolat du week-end.
C'est le chocolat du week-end. Il faut jouer Dexter Fromentro.
Attention les gars,
vite ton PEL dessus. Tu veux doubler ta fortune, dis-le à tous tes amis. Fais passer le message. Voilà. Bon,
la cote PEL de livret A.
Alors les gars, à mon avis, il faut faire quand même être prudent, parce qu'il n'y aura pas grand chose comme code, parce qu'il est troisième du prix de Cornulier. Demain, il y a quand même un cheval qui s'appelle Superfaise, entraîné par un certain Jean-Michel Bazir, qui va débuter autre montée. Ça peut être un gros coup de poker. Je sais pas ce qu'en pense Romain.
C'est vrai que Superfèze, c'est
rapidement, monsieur, hein, parce qu'il y a encore le paddock de Guillaume Luc.
Cheval n'a jamais couru montée, Superfèze, il a un profil atypique parce qu'il a jamais couru au trot monté. Il vient de faire ses preuves au trot attelé, il a prouvé sa forme, etc. Mais on le connaît pas du tout sous la selle. Alors Jean-Michel, ce qui est assez étonnant, nous a dit là ces derniers jours qu'il avait pas du tout essayé le cheval au monté.
Bon, pour les
pas vite en tout cas.
Pour les parieurs,
juste
on note.
Pour terminer, il y aura quand même Alexandre Abrivard qui sera qui va driver plutôt, excusez-moi, Dragon Dufresne. Donc la même écurie, le même entraîneur que B.I.B. et je pense qu'il y a quand même une chance dans cette épreuve.
Messieurs, l'heure tourne, hein, puis on a deux invités, et puis il faut qu'on évoque les quintets d'aujourd'hui et de demain, et puis il y a Guillaume Luix qui a pas encore fait son paddock. Guillaume, tu veux revenir sur Benjamin Marie?
Exactement, qui est un jeune à peine 16 ans, son nom est bien connu dans le trou, puisque son père Bruno est un entraîneur bien connu, et le jeune Benjamin aurait pu se destiner logiquement vers une carrière au trot, et c'est pas ce qu'il a fait, il a pris le contre-pied, il est allé chez Fred Yed, qui est un grand entraîneur, et ça marche plutôt bien, puisqu'il a encore gagné cette semaine une course. Écoutez, c'est un jeune qui monte léger, qui a une bonne main, et qui a une bonne mentalité, et je vous souhaite plein de bonnes choses. Et comme le garçon est très complet, il drive également un amateur au trot, contre Romain Poré, et il a gagné cet hiver à Vincennes avec Crêpe de Satin. Donc c'est une belle histoire, c'est sympathique, c'est pour ça que je voulais vous en parler.
Ah oui, Romain.
Oui. Ouais, il est doué, et puis il a une bonne main, ce qu'on dit dans le milieu, il a une bonne main avec les chevaux, ça passe bien au galop, c'est son vrai métier, et au trot, là où il se fait plaisir aussi.
C'est toi qui l'as rentré dans le bain, Marie.
Non.
Ça, c'est des blagues.
Ce qui est sympa, c'est que son père, donc,
c'est fabuleux. Guillaume. On écoute.
Elle est belle.
Guillaume.
Son père, donc Bruno Marie, vient souvent en course au trot, soit à Chantilly, soit à Deauville, pour encourager son fils, et je trouve ça très sympa, qu'il le supporte à fond. En tout cas, je lui souhaite une très belle carrière.
Il n'avait rien à faire de ta blague, Guillaume. Il a pas rebondi dessus. Dans un instant, notre premier invité, il entraîne l'un des partants du quintet de Vincennes. Le prix de la Gironde, à tout de suite.
13h-14h, les courses RMC.
PMU.fr, Paris sportif, Paris hippique, poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
Les courses RMC.
PMU.fr, Paris sportif, Paris hippique, poker. PMU.
Les courses RMC, Julien Pichenet.
Jusqu'à 14h avec Lionel Charbonnier.
Présent. Pardon.
Avec Brahim Asselou.
Présent.
Avec Mathieu Zaccanini.
Présent.
Et avec Romain Poré.
Présent.
Et avec Laurent Guédard également.
Présent.
On va parler du prix de la Gironde dans un instant. Guillaume, on le remercie, il est parti Guigui, ouais.
Ah,
Guillaume
déjà.
Ouais, on le remercie d'ailleurs Guillaume Luix, dès qu'il y a qui était avec nous. Puis à vous aussi au 32-16, l'un d'entre vous sera à l'antenne dans un instant avec nous pour donner ses paris concernant la troisième course du jour à Vincennes. C'est le prix de la Gironde, c'est du trot attelé, 2850 mètres messieurs, 18 éléments de 7, 8 et 9 ans au départ. Sur quel cheval miser? Le cheval à battre tout à l'heure, c'est Calou Renardière, numéro 10, drivé par Eric Raffin, 2,5 contre 1 la cote à la mi-journée. On va s'intéresser au numéro 3 là, Cabernet. On est avec son entraîneur dans les courses RMC.
RMC, l'invité des courses.
Pierre-Edouard Marie, bonjour.
Présent.
Alors Pierre-Edouard, il paraît, ça fait plaisir, que vous êtes un fan de l'émission des courses RMC.
Ah, c'est vrai. Souvent c'est plus l'été là, quand je rentre du boulot, c'est un peu ces heures-là, j'écoute, j'aime bien.
Bon, tu reviendras la semaine prochaine.
Pas de problème. Non, il y a Romain, quoi, on se connaît depuis la tendre enfance, donc ouais. Ça fait plaisir d'écouter ces gens-là. Et puis même tout le monde, hein, j'aime bien l'équipe, c'est cool.
Il m'a glissé d'ailleurs à l'oreille il y a quelques instants que votre surnom c'est Peter. Est-ce que je peux vous appeler Peter?
Tout le monde m'appelle comme ça, donc c'est même très peu de gens qui m'appellent et qui a été content.
Alors Peter, on va vous appeler Peter pendant tout l'interview. Vous êtes le petit-fils de Jean-Marie, le fils de Jean-François, qui est entraîneur et éleveur. Vous êtes donc dans une grande famille du trot. La meilleure cote cet après-midi, je le disais, c'est Calou Renardière. Juste après, c'est vous avec Cabernet. Comment vous le sentez cet après-midi?
Bien, mon cheval est top. Voilà, l'autre jour, il a fait une petite blague. J'aime pas trop ce genre de blague, mais il est capable de faire du bien et faire des conneries. Voilà, il est comme ça, c'est un petit délinquant un peu.
Mais quel genre de conneries alors raconter? Parce que là, vous en avez trop dit ou pas assez?
Pas assez alors. J'ai repris un tout petit peu pour garder Mathieu dans le wagon de deux l'autre jour, pour pas qu'il me sorte, et puis pour laisser passer les deux chevaux qui me plaisaient, donc c'était Calou de Renardière justement, et puis Canular.
Ouais.
On se retrouve aujourd'hui, et puis quand il a fallu accélérer pour les suivre, eh bien il est passé à l'amble. Voilà, donc c'est un peu son défaut, c'est un peu sa défense.
Comment on fait Peter quand on a un cheval qui passe à l'amble comme ça? C'est un défaut rédhibitoire ou il y a quelque chose à l'entraînement pour les aider à rester dans le trot normal?
Bah ça dépend des chevaux. La plupart c'est une question de poids.
Ouais.
Mais du poids il en a déjà. Ferré ou déferré ça change rien. Il est capable de le faire. C'est plus dans les mains, donc c'est ce qui est difficile à expliquer quand je le fais driver, mais bon, Mathieu, il le connaît très bien. Jean-Michel, il l'avait découvert gentiment le premier coup, et puis après, quand il l'avait bien en main, il avait gagné. Voilà, c'est vraiment dans les mains. Si on veut avancer sans qu'il nous dise « j'y vais », c'est là qu'il passe à l'ombre dès que je détends un peu les rênes.
On va rappeler quelques informations, hein. Vous les avez évoquées, Peter. Il a été formé par Jean-Michel Bazire. Il a gagné une course en décembre avec Jean-Michel Bazire. C'est bien ça?
Exactement.
Il est impressionnant, une belle victoire.
Hein.
Ouais. Il avait été à droite tout seul. Hein.
Ouais. Et il a aussi été disqualifié. Il est parfois disqualifié. Hein. On dit que c'est un cheval un peu compliqué. Je lis le rapport de police. C'était le 23 novembre à Vincennes. C'était montré fautif. A été disqualifié à l'entrée du dernier tournant.
Ouais. Voilà, c'est ça.
Mm. Il manque de sagesse.
Bah, c'est vraiment cet endroit-là qui est un peu critique pour lui. En plus, le haut de la bosse. Mm. C'est là qu'il a fallu accélérer, c'est là qu'il a fait la faute. Il nous l'a déjà fait plusieurs fois, à cet endroit-là.
Moi, j'ai une question. Peter, il avait l'air encore bien, hein. Il avait l'air d'avoir du gaz en dernier lieu.
Ben ouais, et pourtant, on allait vite, hein. Sur le tracking, quand je suis venu, ouais, la tête était bien, en neuf. Donc, moi, j'allais un peu plus vite que ça, mais je l'avais dans la main, je l'avais bien et bien concentré. Donc, voilà, c'est comme ça qu'il faut qu'il soit. Là, je m'en suis occupé, l'autre jour, j'en étais bien occupé, mais là, j'ai essayé de faire encore mieux. Et puis, pour qu'il soit top aujourd'hui et cette semaine au travail, c'était parfait.
Peter, t'as parlé justement d'un outil, t'as parlé du tracking.
Exactement.
Et c'est un vrai plus pour vous maintenant pour entraîner?
Pour entraîner, non, parce qu'on n'a pas forcément ce truc-là à l'entraînement, mais pour les courses.
Non, mais pour, disons qu'après, par rapport au tracking,
tu arrives
à étudier ses perfs en course et après à l'entraînement, si vous pouvez changer des choses.
Ouais, tu revois ta course et puis tu vois la vitesse que l'autre il allait, tu peux voir la vitesse que toi t'allais. C'est sympa, hein, c'est sympa. Moi, j'ai bien aimé.
Ça t'a permis de mieux le comprendre et ajuster certaines petites choses ou pas du tout?
Ouais, après,
c'est juste un repère.
Dans le sulky, j'ai vu quand j'ai remis la vidéo sur le tracking,
t'as vu ce que t'as senti?
Ouais, je savais ce qui s'était passé, j'ai tout ressenti. Mon cheval, je le connais par cœur. Parfois, je pense que ça peut aider. Après, on voit pas tout dans une course, mais ce qui est autour de nous, on le voit, on le sent. Hein.
Alors, il sera associé au cousin d'Alexandre, hein, Mathieu Abrivard, cet après-midi pour le prix de la Gironde, 15h15, on le rappelle. Pourquoi ce n'est pas vous, Pierre-Édouard Marie, Peter, qui drivait Cabernet tout à l'heure?
C'est un choix. Après, de temps en temps, je fais appel à un driver, parfois non. Ça devait être Jean-Michel, il m'avait dit oui, il en a même parlé dans le turf, dans sa boîte mardi. Et puis, le matin du premier forfait, il me confirme, et du coup, et l'après-midi, je vois qu'il a laissé un cheval à lui, et puis du coup, il a un cheval à lui dans cette course-là, qu'il ne drive pas, mais du coup, bien évidemment, il n'a pas le droit de driver contre son cheval, donc je me suis retourné, j'ai hésité, c'était Mathieu ou moi, voilà.
Bah, c'est bien aussi que ça soit Mathieu, parce qu'il est en grande forme actuellement. Il a aligné
ouais,
les succès, c'est cool.
Il le connaît parfaitement. Ça fait longtemps qu'il ne l'a pas drivé, mais il le connaît parfaitement. Moi, c'est un ami, j'ai confiance en lui. C'est quand même un plus, hein. Les mecs, ils sont très compétents. Moi, j'arrive à faire une bonne paire de temps en temps, mais c'est que de temps en temps.
Je ne sais pas si vous avez écouté l'émission juste avant que vous soyez avec nous, Pierre-Édouard.
Non, j'avais pas mis, j'étais à la bourre. Je suis arrivé un peu juste au
cours. Non, parce qu'il y avait un petit comparatif, Mathieu Abrivard, Alexandre Abrivard, et selon Romain Poré, Alexandre Abrivard, c'est le Mbappé du trot.
Est-ce que... Pour la photo, et d'ailleurs, Peter a peut-être dû la voir. Je ne sais pas si tu l'as vu, Peter, la photo de... Tu l'as vu à l'époque, certainement, mais elle est ressortie, la photo d'Alexandre avec Jean-Michel.
Moi, j'étais chez Jean-Michel à cette époque-là. Je l'ai vécu, ça.
Voilà.
Et Alexandre, je m'en souviens, là, on fait le même métier, on a le même, comme si on avait le même âge, mais il est plus jeune que moi. Moi, je me souviens de lui sur les canapés dans le vestiaire et avec le casque de son père et puis
en train de cravacher le canapé.
À grand coup de latte sur le canapé. Hein. Et on doit avoir 5-7 ans d'écart. Donc moi, je montais en course. Lui, il avait que 10 ans peut-être.
Ouais. Il y a beaucoup de parieurs qui surnomment Alexandre Abrivard le fils spirituel de Jean-Michel Bazire. Ça revient beaucoup dans les tribunes.
Ouais, c'est pour ça, je le précise. Ils sont pas trop, mais ils sont formés ensemble, hein. Ils sont plus que amis, hein. C'est un peu comme la famille.
Ouais, pour en revenir au prix de la Gironde, Peter, je regarde les cotes, là, il y a que 4 cotes en dessous de 10 contre 1, donc il y a vous, il y a Calou Renardière, il y a aussi Canular drivé par Yohann Le Bourgeois. Quels sont les
Il n'est pas d'épée aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais il n'est pas d'épée.
Ouais, ouais,
il a fait ses belles pertes d'épée quand même, il a déjà gagné ferré, mais...
Quels sont les favoris alors selon vous pour le prix de la Gironde tout à l'heure?
Ah bah Calou Renardière, c'est quand même une base incontournable, hein. Le chrono l'autre jour, il est monstrueux, voilà. Je pense que les 25 mètres, pour eux, ça va être très dur aujourd'hui. Si en tête, ça marche 13, voire moins de 13, comme ça a fait l'autre jour. Derrière, c'est quasiment mission impossible. Moi, le mien, 13-1, il l'a fait tout seul l'autre jour. Il est peut-être capable de pas taper loin. Voilà, c'est pas la première chance, mais le cheval est bien. Je pense qu'il est capable de marcher 13 ou peut-être un tout petit peu moins et pas donc son record.
Peter, vous avez donné pas mal d'infos là, parce que ça va être l'heure. Hein. Il va être l'heure maintenant de demander à la team RMC ses pronos pour le quintet de cet après-midi. Merci beaucoup,
merci
Pierre-Edouard.
Merci bien, Peter.
Et on revient très vite pour les courses RMC. On espère vous avoir de nouveau bientôt. Et merci de nous écouter, Peter. À nous aussi, évidemment. Vos chocos, vos pronos pour cet après-midi, Brahim et Lionel. Vous avez écouté attentivement ce qu'a dit Pierre-Edouard. Marie, j'ose plus l'appeler Pierre-Edouard maintenant.
Peter.
Personne l'appelle comme ça. Peter, allez, alors, qu'est-ce que vous en dites pour le prix de la Gironde cet après-midi? On l'a dit, 4 cotes, cotes en dessous de 10 contre 1.
Moi, j'étais sur le 3 Cabernet, et voilà, j'ai envie de faire confiance à Peter. Et non, la seule chose, c'est que moi, c'est vrai qu'il m'a impressionné au mois de décembre, mais voilà, s'il peut aller à la faute, donc faites vigilant. En tout cas, c'est un cheval qui t'oblige à te contracter durant toute la course. Donc voilà, il peut tout se passer, mais il a de grosses qualités. Voilà, je le vois bien, moi, dans les 3.
Lionel.
Moi, ça sera le 5, Canular. Il en a parlé, Peter aussi. Je pense que, alors je sais pas pourquoi il est pas déféré des 4, hein.
Non, ça lui arrive.
Et donc, mais même Ferré, il gagne. Donc, je pense que il va faire partie du quintet.
C'est du 10 contre 1, hein, Canular.
Ouais.
Pas mal.
C'est pas mal. Essayé.
Et vous en pensez quoi? On a Jocelyn avec nous.
RMC, le tuyau du parieur.
Ça va, Jocelyn?
Ça va, vous, messieurs?
Bonjour, Jocelyn, toi, tu mises sur Comet des Vaux, le numéro 4.
Oui.
Pourquoi?
Alors, moi, je vous le dis. Bah, pourquoi? C'est simple. Il a gagné à 60 balles sans être desserré avec son entraîneur il y a quelques jours. Ce qui m'a surpris, d'ailleurs, parce qu'en général, c'est un cheval, il faut attendre qu'il soit desserré des 4 et drivé par Tony Le Belair. C'est la configuration aujourd'hui. Donc, au premier poteau, desserré des 4 avec Tony, ça va être tête et corde. Si ça fait pas le con, si ça fait pas une faute en fin de parcours, c'est au minimum dans les 3.
Pour moi, au minimum dans les 3, Comet des Vaux, 19 contre 1. Ça, c'est
oui, les gars,
un bon ticket.
Pour moi, c'est un cheval qui est en retard de gain, et c'est bien préparé en général. Hein. C'est un cheval estimé par le gros. Moi je pense vraiment, ça peut même gagner.
Oulala, il est confiant, Jocelyn, hein, sur Comet des Vaux. Hein. Alors, Lionel a bien écouté tout ça, parce que la règle, là, c'est gagnant, là.
Mais je sais pas. Je voulais lui dire dans les 5, mais Jocelyn,
au minimum dans les 3.
Écoute, je vais écouter Jocelyn dans les 3.
Dans les 3. Allez, bon, dans les 3, Jocelyn. Ça te va?
Bon, les gars, juste un petit truc. Il y a 3 semaines, je suis passé, hein. Je vous dis un truc. J'avais annoncé à tout le monde, à mon entourage, à tous mes potes, que je passais sur le plateau la semaine d'après. Je suis pas passé. Donc, on fait un truc. On passe un 10. Il y a tous mes potes qui m'écoutent, hein. Ok,
Il
est dans les 3 cet après-midi. J'ai pas dit dans les 5, hein, je suis joueur. Hein. Dans les 3, il est dans les 3 cet après-midi, je suis avec vous sur le plateau la semaine prochaine. Hein. Non, mais les gars, rigolez pas, hein, je fais le voyage. Hein. Je viens d'ouvrir la délivrande, là, le petit provincial de merde, là, et je suis avec vous sur le plateau, on est d'accord, hein, dans les 3. Hein.
T'habites où, Jocelyn?
C'est comme ça, hein.
T'habites où? Ça te fera un long trajet ou pas?
À d'ouvre la délivrande.
Ah oui. Bon, ça va, c'est pas très très loin. Bon,
c'est Julien qui prend la responsabilité.
Oui, mais voilà. c'est moi qui serai à la présentation la semaine prochaine, donc ça marche pas, mais j'aurai oui, bah écoute, on en reparle, Jocelyn. On va dire
les gars,
on va regarder la course et puis on en parle.
Et on en parle pas, c'est tout nul. Hein. Moi, je suis un ténu. Hein. En plus, vous n'avez pas conscience, les gars, que potentiellement, vous avez un futur collègue. Donc, laissez-moi ma chance.
En pleine forme, Jocelyn. Merci beaucoup. Dans les 3, hein, on est d'accord, hein, Lionel.
Dans les 3, parce
que c'est vrai qu'il a dit. Oui, dans les 3. Ouais, dans les 3.
Voilà, j'allais dire dans les 5, mais
ouais, non,
dans les
3,
c'est dans les 3.
Romain et Mathieu, vous aussi maintenant, après avoir écouté Jocelyn, vous misez sur le coup ou pas?
Non, je vais pas votre place.
Je vais aller vider mon PEL du coup. On met pas le favori forcément, hein, le 10 Calou Renardière, on le laisse à... Je mettrai Charme de Star. Allez, le 6, il y a 18 contre 1 aussi, comme comme Ed Devo.
Charme de Star. Ça fait des bonnes cotes. Oh là là, il y a de quoi faire un vrai bon ticket.
Bah moi je vais décevoir Mathieu. Un peu tout le monde parce que je vais choisir Calou Renardière.
Ouais.
Idéalement la engagé base, à la limite la du base. Recul.
Zéro donc, risque.
Avantagé au poteau. Non, pas zéro risque.
Il faut bien donner un gagnant.
Il faut bien
donner
un bon favori. Moi, je pense que c'est un excellent favori que des outsiders un peu mauvais. Et donc, il est déféré des 4. Il s'entend super bien avec Eric Raffin parce qu'il avait joué de match chance dans le meeting d'hiver. Il s'était mis au galop plusieurs fois avec Jean-Michel Bazir alors qu'il avait des courses gagnées. Il s'était mis au galop au poteau. Là, il s'est facilement imposé avec Eric Raffin. Enfin, pour moi, c'est pénalty sans gardien. Voilà, je me mouille un peu.
Voilà, le zéro risque de Mathieu Zaccanini. Et Laurent Guédard, dans tout ça, il en pense quoi?
Alors moi, j'aime bien le 8 Classico Fort. Je m'aperçois de sa cote 8 euros. Je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup d'argent pour ce concurrent. Je rappelle les conditions. L'écurie de Christian Bigeon a été touchée en début d'hiver par une réaction à un vaccin. Tout l'effectif a été touché. Ça a été la catastrophe au mois de novembre et de décembre. Et ça commence à aller de mieux en mieux depuis la fin du mois de janvier. J'ai beaucoup aimé sa récente 7e place. Il est déféré des 4 pieds. Découvre un superbe engagement. Lui aussi, certainement un petit peu en retard de gain parce qu'il n'a pas pris d'argent depuis le début du meeting et je me méfie de ce 8 Classico Fort. Je trouve qu'il y a beaucoup beaucoup d'argent.
Oui, c'est assez partagé, hein. Vos avis sont assez partagés. Vous n'êtes
c'est pas mal Classico Fort, surtout que les pensionnaires de Christian Bigeon reviennent en forme après avoir été malade.
Merci messieurs, dans un instant on parle du quintet de dimanche. On aura également notre deuxième invité avec nous, mais on va faire un petit tour en Angleterre pour la première ligue. C'est le premier match de la 25e journée. Jordan Olivier, 0-0 entre Tottenham et Newcastle.
Salut Julien. Effectivement, c'est parti depuis 10 minutes de jeu. 0-0 entre les deux équipes. Pas d'occasion majeure dans ce début de rencontre, mais ce sont les Spurs qui ont la possession du ballon. Les joueurs de Mauricio Pochettino avec des Français. Hugo Lloris dans les buts et Moussa Sissoko dans l'entrejeu. 11 minutes de jeu. 0-0 entre Tottenham et Newcastle.
Messieurs, les courses RMC jusqu'à 14h, dans un instant, on parle du quintet de dimanche. À tout de suite.
13h-14h, les courses RMC.
PMU.fr, Paris sportif, Paris hippique, poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
Les courses RMC.
PMU.fr, Paris sportif, Paris hippique, poker. PMU.
Les courses RMC, Julien Pichenet.
Et on va faire l'appel. Brahim Asloum.
Présent.
Lionel Charbonnier.
Présent.
Romain Poré.
Présent.
Mathieu Zaccanini.
Présent.
Laurent Guédard.
Présent.
Et toute la team des courses RMC. Là, on va parler du quintet de dimanche. Maintenant, c'est le Grand Prix d'Afrique. Ce sera la 4e course à Vincennes, dimanche à 15h15. C'est du 3 attelé, 2850 mètres, 18 par stand. C'est une course C. Et nous sommes maintenant avec l'entraîneur et driver de Kumba Cookie. Il est espagnol. C'est notre deuxième invité.
RMC, l'invité des courses.
Il est espagnol, il s'agit de Gabriel Angel Poupou. Bonjour.
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 Bonjour Gabriel.
Bonjour Gabriel.
Salut Gabriel. Toute la team RMC, bonjour, là, on est prêt à vous poser plein de questions. Gabriel, vous êtes entraîneur et jockey, vous avez une trentaine de chevaux à l'entraînement. Merci d'être avec nous, parce que je crois que vous avez un week-end très chargé, hein. Une course aujourd'hui et deux demain, c'est bien ça le programme?
Ouais, voilà.
Et donc on connaît votre parcours qui est assez atypique, Gabriel Angel. Vous êtes en France depuis 6 ans, mais avant cela vous étiez en Espagne. Vous êtes en France depuis 2013.
Oui, voilà. Je me suis installé en premier à Oradea de Villepellet, dans l'Orne. Et puis voilà, au moment que ça marchait un petit peu, que j'avais besoin un petit peu plus de place, je me suis installé en Seine-et-Marne.
Et vous étiez auparavant à Majorque, hein, sous le soleil, entre 1984 et 2012. Vous avez presque fait 30 ans là-bas.
Oui, voilà. C'est là que j'ai commencé et que j'ai fait presque toute ma carrière.
L'Espagne n'est pas une grande nation du trot. Alors forcément, on est un petit peu curieux de savoir comment ça se passe. Là-bas, il y a un hippodrome qui est assez connu, hein, c'est Son Pardo, mais c'était pas forcément très très bien rémunéré, les courses.
Ouais, c'est le niveau est quand même important. Mmh. Après, avec les adaptations qu'on a, c'est compliqué de faire un vrai métier, même s'il y a beaucoup de copains qui le font là-bas.
Gabriel, c'est bien, bravo à vous de venir en France et tout ça. Quel est le plus gros souci d'adaptation par rapport au métier, je dirais, à la française et par rapport aux courses à la française? Est-ce qu'il y a vraiment de grosses différences?
Il y a beaucoup plus de concurrence. Les courses sont vraiment dans chaque course, il y a beaucoup de chevaux qui peuvent être à l'arrivée. Chez nous, souvent c'est pas, il y a pas énormément de chevaux avec de la chance de gagner. Alors il faut surveiller moins d'adversaires qu'ici. Et après pour la reste, le système à mon avis en France c'est extra, c'est beaucoup plus facile qu'ailleurs. Bon, le départ volté, ça arrive à être un vrai souci pour nous.
Gabriel, est-ce que t'as gardé des méthodes d'entraînement espagnoles ou t'as complètement changé avec les méthodes françaises? Est-ce qu'il y a une vraie différence?
T'as dû t'adapter par rapport aux pistes. Les pistes ne sont pas les mêmes. Il y a eu.
Chaque endroit c'est différent. À Villepellet, j'avais été obligé de prendre un petit peu le méthode d'entraînement des entraîneurs qu'il y avait là-bas parce que au début je me sortais pas trop. Et au moment que je suis déménagé ici en région parisienne, il m'a fallu faire pareil. Hein. Il a fallu changer et suivre un petit peu les conseils des entraîneurs qui avaient à chaque endroit que j'ai passé pour arriver à avoir mes chevaux un petit peu en forme.
Comment ça s'est passé le moment où vous êtes venu en France, Gabriel Angel? On a bien compris que pour vous, c'était la suite logique. Il fallait venir en France pour continuer. Mais c'est une décision que vous avez prise rapidement ou ça faisait très longtemps que vous vouliez venir en France?
Mais il y a un choix qui a été un moteur un petit peu, c'est très bon. Hein.
Oui, voilà. C'était de s'installer en France, c'était un petit peu un rêve d'enfance.
Hein. Ah, oui.
Au moment que j'ai commencé à connaître un petit peu ou à voir les courses françaises, je pense que pareil que moi, il y a beaucoup de garçons dans le monde qui regardent les courses françaises et ils aimeraient bien d'arriver à pouvoir faire son métier ici. Après, c'était une rêve, mais c'était toujours compliqué. Et voilà, ça restait une rêve. Hein. Au moment qu'en Espagne, on a été touché pour la crise économique, qui a vraiment laissé les propriétaires de chevaux vraiment en baisse, quoi. Et il a fallu bouger parce que voilà, là-bas, on pouvait pas s'en sortir. Et c'est sûr que si j'aurais pas eu Treble dans mes box, probablement j'aurais jamais osé à franchir le pas, quoi.
Oui, ça vous a aidé. Oui,
hein, parce que Treble a été l'un des meilleurs chevaux espagnols. Ensuite, il est allé en France. Il a réussi de belles choses dans de belles courses et il a cartonné sur le circuit européen. Il a remporté pas mal de groupes 1, notamment le Kimi Grand Prix. Il s'est même permis le luxe de battre un certain Timoko. C'était en 2015.
Ça veut dire, Gabriel, que vous venez aussi avec des propriétaires espagnols? Vous avez réussi à ramener des propriétaires dans votre valise?
Non, pas plus que ça.
Non.
Pas plus que ça. C'était une pari un petit peu osée.
C'est
et
dur.
Et voilà, j'ai pris Treble parce que je l'avais en location et le propriétaire, l'éleveur, il a bien voulu accepté que je le prenais. Mais la reste des chevaux que j'avais pris, c'était des chevaux en location aussi, mais avec moins de, ils ont presque pas couru en France.
Combien tu as de chevaux aujourd'hui, Gabriel?
Là, aujourd'hui, je n'ai une trentaine.
Une trentaine de chevaux, Gabriel, c'est pas mal, hein?
31. Oh, c'est bien.
Et combien de propriétaires différents, à peu près?
Bah, il y en a pas mal. Il y en a beaucoup en location aussi. Et il va y avoir une quinzaine de propriétaires.
Enfin, ouais, c'est bien, hein, bravo. Bah, on voulait un petit peu vous présenter, Gabriel Angel, revenir un petit peu sur votre parcours. Maintenant, évidemment, on va évoquer hein, le quintet de demain. Oui,
Gabriel, j'ai une petite question. Je voulais revenir avec toi sur les allocations espagnoles qui sont vraiment très faibles.
Ouais.
Donc, contrario par rapport aux allocations françaises, je voulais savoir comment fondamentalement les acteurs des courses espagnoles peuvent bien vivre. Parce que par exemple, il y a des allocations à 6000 euros de moyenne. Ouais. Et j'avais une question à ce sujet parce que finalement, j'ai jamais eu l'occasion d'en parler avec des acteurs espagnols.
Bon, chez nous, en Espagne, les mondes de course, c'est un monde de loisirs, quoi. De loisirs pour les propriétaires. Et puis pour les entraîneurs et drivers, ils font son métier s'ils peuvent. Et surtout, c'est pour les entraîneurs, c'est au niveau des pensions que ça se passe, quoi. Okay. On prend les pensions pour en faire notre salaire, quoi. Après, c'est sûr que même si les allocations sont très faibles, ça fait un petit peu plus à notre salaire normal. Mais voilà, là-bas, dès qu'un propriétaire il achète une cheval ou élève un cheval, le but c'est d'arriver à voir les courses, d'aller aux courses, de se faire plaisir avec son cheval, mais jamais, presque jamais, le but est de s'en sortir financièrement. Au moment qu'ils achètent un cheval, s'ils peuvent arriver à payer ses pensions, un petit peu à aider à payer ses pensions avec les allocations, ils sont contents.
Gabriel, on va évoquer hein, le quintet de demain, parce que c'est pour ça aussi qu'on voulait vous parler. Vous serez avec l'un des partants les plus riches de la course. C'est une jument, Kumba Cookie, qui sera déférée des 4, qui partira avec le numéro 15. Est-ce que vous êtes confiant pour cette course?
Écoutez, je suis confiant avec elle. Dernièrement, la jument, elle fait toutes ses courses et elle est adorable. Après, on est un petit peu malchanceux au niveau des parcours. Cet hiver, on a galéré derrière des mauvais parcours en sachant qu'elle était prête. Je pense que si jamais on arrive à trouver le parcours qu'on rêve d'avoir, justement, il va être présent, quoi.
On rappelle que vous êtes le propriétaire, l'entraîneur et le driver hein, de Kumba Cookie, avec qui vous vous élancerez demain donc pour notre quintet de dimanche, le Grand Prix d'Afrique. Merci beaucoup Gabriel Angel Poupou d'avoir été avec nous dans les courses RMC.
Merci Gabriel.
Merci Gabriel.
Merci Gabriel. Merci Gabriel. Et très bon week-end à vous. Alors messieurs, vos pronostics, Lionel Ibrahim pour commencer évidemment, roulement de tambour, qui va gagner le Grand Prix d'Afrique? Il y a Biango, puis il y a Mathieu Abrivard, il y a Eric Raffin, il y a Jean-Michel Bazir. Je sais que vous savez, allez-y.
T'as dit Mathieu Rivard?
Oui, non, c'est Alexandre. Alexandre.
Non, ben moi, ça sera Mathieu.
Ah oui,
donc le 11 Concerto des Dunes. Voilà.
Le 11 Concerto.
C'est un outsider, Dunes, mais ça... qui devrait, je pense, faire partie des 5.
11 dans les 5 pour Lionel Charbonnier. Brahim.
Moi, ça sera le 16 Dandy de Gaudrel, très estimé par son entraîneur Björn Goop.
Ouais.
Il a fait une belle prestation là sur les 2700 mètres avec voilà, donc moi je le vois bien se placer.
Donc le 11 pour Lionel, le 16 pour Brahim et Xavier, il en pense quoi? On a un parieur avec nous.
RMC, le tuyau du parieur.
Le tuyau du parieur. Bonjour Xavier.
Salut les garçons.
Bonjour Xavier. Salut. Toi aussi, comme Jocelyn tout à l'heure, tu veux être avec nous autour de la table la semaine prochaine?
Alors moi je viens de Toulouse les mecs, ça va être un peu compliqué.
Bah ouais, bon, avec le train c'est rapide.
Après, j'ai bien fait l'avant-course en direct de Vincennes pour Equidia dimanche.
Ah bah voilà, allez. Ah bah voilà. Alors Xavier...
Il faut venir Julien.
Toi, il y aura du monde autour de la table la semaine prochaine. Xavier, toi tu vois le 16 dans le Grand Prix d'Afrique demain, c'est Dandy de Gaudrel.
Exactement. Alors, tout d'abord, c'est quand même relevé un quintet quand même très pauvre hein, au niveau des candidatures. Le prix de la marne aurait été un bien meilleur support pour les enjeux et tout. Mais à vouloir toujours voir beaucoup plus de jeunes au trot être performants de bonheur, baisser les qualifications, je pense qu'on va vers un appauvrissement des chevaudages. On va se rapprocher de plus en plus du galop et je pense pas que ce soit la bonne solution. On le voit aujourd'hui et vous verrez que les enjeux risquent d'en pâtir. Mais bon, j'ai quand même choisi Dandy de Gaudrel parce que le cheval a été réservé par Björn Goop pour le meeting. C'est un fils de Timoko qu'il connaissait par cœur. Je pense qu'il court pour sa casaque, son entraînement. Je pense que c'est un homme habile. On l'a déjà vu plein de fois. Aujourd'hui, c'est un vrai driver à la française. Donc, je pense qu'il a très bien préparé son affaire. Et le cheval... Attention, il rend 25 mètres, ça n'en fait pas une priorité absolue pour la gagne, parce que quand même, il va falloir revenir. Mais s'il n'était pas 4-5e, je serais déçu. S'il est dans 1, 2, 3, il pourra peut-être viser plus haut à l'avenir.
Alors, Lionel, la règle?
Dans les 5.
Dans les 5, voilà. Ah ouais. Xavier, s'il est dans les 5, vous revenez la semaine prochaine. Romain et Mathieu, vos pronos.
J'aime beaucoup Dandy de Gaudrel aussi, moi, le 16, mais je vais prendre le 17 DS Deland pour essayer d'apporter un peu de cote. Je pense qu'elle sera entre 10 et 20 contre 1.
Non, il n'y en a pas encore des cotes, hein, entre donc 10 et 20 contre 1, donc c'est pas mal ça, de ouais. 17.
Et je vais apporter également de la cote, je vais faire confiance à mon collègue Dimitri Blanc-L'œil et je vais choisir Dancing Love, qui redescend nettement de catégorie et qui est le plus riche de l'épreuve et qui devrait peut-être se réhabiliter enfin dans cette compétition.
Et Laurent Guédard.
Alors le 14 Dagana Ouida qui profite d'un superbe engagement à la limite de recul. Il a couru deux fois Vincennes et les chronos sont très bons, je le vois. Pourquoi pas monter sur la plus haute marche du podium, il y aurait de la cote.
Merci Laurent. Jordan Olivier pour le premier match de la 25e journée de Première Ligue. Toujours pas de but entre Tottenham et Newcastle.
Mais oui, Tottenham et Newcastle sont à égalité pour l'instant après 26 minutes de jeu. Mais la pression qui s'accentue sur le but de Newcastle avec à l'instant une énorme occasion pour Eric Lamela qui a placé sa tête sur un centre venu de la gauche, il a placé sa tête sur la barre transversale de Dubravka, le gardien slovaque, toujours 0-0 donc, mais Tottenham qui se montre de plus en plus dangereux sur le but des Magpies.
Merci Jordan Olivier, merci à vous tous, Brahim Asloum, merci encore bien, bon merci anniversaire monsieur. Brahim, merci 40 ans avant-hier, merci Lionel Charbonnier,
merci,
bon week-end à vous, merci Romain Poré. Ouais. Merci Mathieu Zaccanini, merci Laurent Guédard, merci à tout le monde. Dans un instant, l'Intégral Sport avec Christophe Cessieux. Très très bonne journée, très bon week-end avec nous sur RMC et à la semaine prochaine.
Ciao.
13h-14h, les courses RMC.
PMU.fr, Paris Sportif, Paris Hippique, Poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.